Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 62 et au verset 2, est donnée une prophétie revêtant pour nous une grande importance. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Le Saint-Esprit, par la bouche d'Ésaïe, montre bien ici que les Israélites vont voir quelque chose changer et que les créatures de Dieu porteront un jour un nom nouveau. Cette prophétie allait s'accomplir lorsque, plus de 7 siècles plus tard, le livre des Actes relatera que ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce nom merveilleux devait devenir le symbole même de l'appartenance totale au Christ. L'apôtre Pierre montre bien la portée de ce nom lorsqu'il exhorte en ces termes « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Peu de temps après, des milliers d'êtres étaient jetés aux bêtes fauves et mouraient en portant ce mot « chrétien » sur les lèvres. Ils le portaient comme une fleur qui jamais ne devait se flétrir. Pourquoi dès lors toutes ces étiquettes? Pourquoi ces clans et ces dénominations humaines? Le nom de Jésus-Christ n'est-il donc pas suffisant? N'est-il pas le plus beau et le plus glorieux d'entre tous? En Romains 16:16, l'apôtre Paul, avant de clôturer sa missive, transmet les salutations de toutes les assemblées qu'il connaît et a visitées. Il lance « Toutes les églises du Christ vous saluent ». Il ne faisait donc aucun doute que chacune de ces églises ne voulait suivre et ne portait le nom que d'un seul, Christ, le Fils de Dieu. Il s'agissait pour eux d'un honneur, d'un cri de foi, d'une soumission à celui par le truchement duquel la grâce de Dieu leur était accordée. Pourquoi dès lors chercher à porter un autre nom? En transposant les choses à notre époque, ne pensez-vous pas qu'il serait utile de nous poser la même question? Pourquoi toutes ces étiquettes, ces déchirements, ces sectes? Il est en fait aisé de répondre. Tout cela existe parce que chacun veut tirer la couverture à lui, prêcher sa doctrine, imposer son point de vue et surtout en tirer une gloire ou un profit tout personnel. L'apôtre Paul avait déjà rencontré ce grave problème au 1er siècle et avait même réagi d'une manière violente à l'égard de cet esprit sectaire. Il dit dans sa première épître adressée aux habitants de Corinthe, « J'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé, continue-t-il? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Porter le nom de Jésus-Christ constitue un ordre aussi net, aussi clair que celui de « tu ne te parjureras point » ou encore « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Que signifie l'injonction de l'apôtre Pierre, glorifier Dieu à cause de ce nom? Cela veut dire tout simplement que l'on doit porter ce nom à l'exclusion de tout autre. Il s'agit de celui que le Dieu du ciel veut que nous portions. C'est le seul nom qui prévaudra au ciel. Disons-nous bien que longtemps avant d'entrer au ciel, toutes les étiquettes religieuses devront être arrachées et que le jour où la signification de cette simple vérité atteindra le cœur de chacun, une grande victoire contre les divisions sera remportée. Les églises de Christ sont également non sectaires quant au culte qu'elles rendent à Dieu. Chaque membre de chaque assemblée locale de l'Église du Seigneur se rend compte, grâce aux Écritures, que le culte qu'il rend à Dieu est absolument conforme à ce que j'y exige l'Éternel. Ce culte est celui qu'a institué Jésus et ses apôtres. Rien n'y est ajouté, rien n'y est soustrait. Personne, par conséquent, n'a absolument à y trouver à redire. car tout y est conforme à la volonté divine. L'homme a tendance de croire qu'en matière d'adoration, il peut innover, modifier et varier. Mais il a tort. Un simple examen objectif du Nouveau Testament pourrait aisément lui prouver le contraire. La Bible tout entière démontre amplement que Dieu a toujours exigé que les êtres humains lui rendent un culte suivant son exacte volonté. Les exemples d'Uzza, ainsi que celui de Nadab et Abihu, parmi de nombreux autres, sont autant d'avertissements solennels à ne pas essayer de changer la volonté de l'Éternel selon les aspirations de notre propre cœur. Il serait vraiment insensé de croire que Dieu met ses desseins et ceux de l'homme sur le même plan. Il est paradoxal de voir les êtres humains se laisser guider par une idée maîtresse, pouvant s'exprimer ainsi, peu importe la manière dont on rend un culte à Dieu, pourvu que l'on soit absolument sincère. La sincérité est bien entendu nécessaire. Cependant, elle n'est pas suffisante en elle-même. Elle doit encore être accompagnée d'un ferme désir de se conformer en tout aux ordres de Dieu. Jésus le dit bien en parlant à la femme samaritaine qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous devons comprendre et admettre qu'il est impossible à l'homme de s'approcher de son Créateur sans se conformer à ce qu'il nous révèle dans sa parole, la Bible. Cela était vrai en ce qui concerne Caïn et Abel. L'un offre un sacrifice conforme à ce que Dieu lui avait demandé, et l'autre suit ses propres idées. Caïn s'étonne alors de ce que l'Éternel jette un regard favorable sur l'offrande de son frère Abel, et sa jalousie le transforme bientôt en meurtrier. Le crime fait son entrée dans le monde à cause d'une désobéissance, à propos d'une chose que certains considèrent comme accessoire. Comme le dit le livre des Proverbes, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce principe est resté vrai tout au long des temps bibliques et l'est toujours aujourd'hui, car il n'y a en Dieu ni changement ni ombre de variation. L'Éternel fait encore connaître l'unique manière dont il voit, lui, les choses en matière de culte, par le moyen de déclarations telles que celle de Marc, en Marc, chapitre 7, verset 7. C'est en vain que les hommes m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Celle de Jean, en Apocalypse 22, 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Toujours Jean, dans sa deuxième épître, au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. J'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Après avoir lu de tels passages de la Bible, on ne peut que conclure une chose. Il importe d'adorer Dieu selon sa volonté et non suivant les dictées de notre propre cœur. Les Églises du Christ ne suivent qu'une seule chose, et c'est la Bible. Rien de plus, mais rien de moins. Il s'agit là de la marque incontestable d'une Église non sectaire, ne trouvez-vous pas? Ou votre réaction soit peut-être de dire, c'est ce que prétendent toutes les Églises, ça ne constitue absolument rien de neuf. À cela, nous répondons, vous avez parfaitement raison. Mais nous vous offrons de le prouver en vous invitant à assister à une de nos réunions, en amenant votre Bible pour examiner dans les Écritures si ce que vous voyez et entendez est exact. Toutefois, il faut que vous soyez prévenus. Ne vous attendez pas à voir quelque chose de sermonieux, de luxueux, des hommes en habit ecclésiastique, des orgues ou quelconque instrument de musique, des livres doctrinaux, quels qu'ils soient, ni même de prétendues manifestations de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire des miracles par imposition des mains, etc., etc. Par contre, vous verrez que la Bible, et seulement la Bible, y est enseignée et méditée, qu'elle seule se trouve dans la main de chacun, et que les membres qui s'aiment profondément utilisent un seul titre pour se désigner les uns les autres. Frère un tel ou sœur une telle. À l'extérieur, se trouvera certainement un panneau ou une simple inscription. Une inscription qui porte un nom. Église du Christ. Les églises du Christ ne désirent nullement réformer un ou plusieurs systèmes ou structures religieuses. Tel n'est pas leur but. Elles veulent tout simplement restaurer le christianisme primitif tel qu'il est décrit et appliqué dans le Nouveau Testament. Elles vous invitent à arracher votre étiquette, à vous débarrasser de tous les dogmes, de toutes les traditions, de tous les tabous, de tous les enseignements humains qui vous encombrent et vous empêchent de voir la merveilleuse simplicité et la splendide pureté de l'Évangile que suit cette Église, que Jésus, le Christ, a bâti et qu'il s'est acquise par son propre sang. Et peut-être votre refuge. Car les enseignements du Sauveur en dirigent chaque pas. Elle seule survivra à la grande procession des sectes, dont le Christ, en Matthieu chapitre 15 et verset 13, dit « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. » Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Écoutez encore les pensées qu'exprime ce cantique spirituel. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous préparera. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il sera trop tard. Sur cette rive hospitalière, Dieu réunit ses enfants. Après les luttes de la terre, nous irons grossir le rang. Viens avec nous. La voile est prête. Frère, viens, que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai. Personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement en tant car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure. Sur la